Alors bonjour à toutes et tous, Arlette Farah au micro de vues et voix, de regards croisés avec
Fulgence Blaise.
Voilà, mais vues et voix nous y sommes aussi, c'est vrai. Donc aujourd'hui Fulgence, avec qui allons-nous parler?
On va parler avec Tristan Lamour, responsable des communications d'Accès Bénévolat, qui va parler du prix Hommage Bénévolat Québec.
D'accord. Mmh. Et en deuxième partie d'émission, donc, nous recevrons Sabrina Lemeltier, qui est directrice générale de la Dauphinelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la Dauphinelle est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences et toute forme de violence, ce que nous verrons dans la deuxième demi-heure de l'émission. Voilà. Donc, on part en musique.
Oui, tout de suite avec Althea de Grande Dame, que j'apprécie beaucoup. Instrumental, vous allez entendre.
Allez.
Althea Runé et Janet Harris, We Are One.
Thank you.
Althea Renee et Janet Harris, We Are One. Ouais, quand les femmes se mettent aux instruments, ça part, hein, ça badine pas. Voilà, We Are One, c'était le titre de la pièce. On a déjà notre invité au téléphone, Monsieur Tristan Lameau, qui est responsable des communications d'Accès Bénévolat et un des porte-parole locaux de la campagne annuelle Prix Hommage Bénévolat Québec. Bonjour Monsieur Lameau.
Bonjour Fulgence.
Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Merci, et vous, Tristan?
Très bien.
Voilà. Merci d'avoir eu le temps et malgré votre emploi du temps chargé, de venir nous parler un peu brièvement de qu'est-ce que c'est que l'accès bénévolat et puis ensuite comment on se sent quand on est l'un des porte-parole locaux de la campagne annuelle d'ailleurs.
Mais on se sent très bien en fait, c'est exactement ma job de faire ça, de venir vous parler comme je le fais ce soir. Notre job en tant que porte-parole, c'est de promouvoir ce prix, le PHBQ, le prix Hommage Bénévolat Québec,
oui,
afin qu'il y ait le plus de citoyens, citoyennes et d'organismes qui présentent leur candidature.
Oui. Est-ce que la date limite, c'est bientôt, là, c'est le 5 décembre?
Oui, la date limite, c'est le 5 décembre. Okay. C'est une date un peu symbolique, puisque c'est le 5 décembre, c'est la journée internationale des bénévoles, pardon.
Oui.
Journée durant laquelle les différents organismes, partout à travers le monde, en fait, célèbrent leurs bénévoles et l'implication de leurs bénévoles. Donc c'est ça, c'est la date limite pour déposer la candidature.
Oui, et chez vous là-bas, Accès Bénévolat, comment ça se passe là-bas, là, cette journée-là, au fait? Qu'est-ce qui se prépare dans les coulisses?
Cette année, vous vous en doutez peut-être, c'est un peu particulier. Habituellement, à Accès Bénévolat, on a une tradition, c'est qu'on emmène, nos bénévoles qui ont été actifs durant l'année, on les emmène déjeuner. Ouais. Partager un déjeuner, c'est l'occasion de se rencontrer, puisque la plupart du temps, nos bénévoles ne font pas du bénévolat dans les mêmes organismes. Puisque,
oui.
Pour le rappeler, nous, on fait le lien entre des organismes communautaires qui ont besoin de bénévoles et des bénévoles qui souhaitent s'impliquer.
Oui.
Donc, nos bénévoles ne se connaissent pas forcément entre eux, donc c'est l'occasion de les faire se rencontrer.
Oui. Et, tisser des liens entre eux.
Tisser des liens, tout à fait.
Oui.
Et qu'ils puissent partager aussi leurs expériences, parce que le bénévolat, c'est des centaines de possibilités différentes. Donc c'est ça, c'est un moment toujours assez intense et assez intéressant. Cette année, malheureusement, on ne pourra pas se retrouver pour déjeuner.
Oui.
À cause de la pandémie.
Pandémie oblige.
Alors, exactement. Alors nous, on propose un événement numérique à nos bénévoles la semaine prochaine.
Oui.
Donc durant... qui ne sera pas exactement le 5 décembre, puisque ça tombe un samedi. Donc on propose un événement numérique, on leur propose un quiz en fait en équipe. Ça va être un événement super le fun.
Un quiz en équipe?
Exactement.
Je viens de voir, j'aimerais bien voir le lien pour aller. Est-ce qu'on a le droit?
Si on n'est pas bon. Il n'y a pas de problème, vous pouvez participer.
Ah bah d'accord.
Il reste de la place.
Oui.
Et puis, on réalise aussi quelques petites surprises que nos bénévoles vont recevoir seulement le 5 décembre. Donc, je ne peux pas vous en parler maintenant.
Non. Gardez le secret.
Voilà.
Voilà. Alors, la question qui tue, qui peut être lauréat ou bien lauréate?
Alors, déjà, il y a plusieurs catégories.
Oui.
Pour le prix Hommage Bénévolat Québec. Donc, peuvent être lauréats et lauréates n'importe quel citoyen, citoyenne qui s'implique bénévolement, qui fait du bénévolat.
Oui.
Je le rappelle, le bénévolat, c'est pas simplement l'entraide, ça va un peu au-delà. Oui, c'est donner son temps pour une cause, mais dans un contexte organisé. Donc, par exemple, aider son voisin ou sa voisine à aller faire son épicerie, ça, c'est pas forcément du bénévolat, c'est de l'entraide. Le bénévolat, c'est dans un contexte organisé.
Oui, parce qu'il y a des gens qui confondent souvent ça aussi. Hein.
Exactement. Mmh. Après, parfois, la limite est un petit peu mince. Mais donc, pour être admissible, il faut résider au Québec, il faut faire du bénévolat pour un organisme, dans un organisme communautaire.
Oui.
Et puis après, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie jeune, les 14-35 ans, et tous les autres.
Oui.
Donc ça c'est pour les individus. Puis il y a aussi une catégorie organisme qui permet de récompenser, de remercier les organismes qui permettent à l'action bénévole de se développer.
Oui.
Alors il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte. Il faut évidemment que ce soit un organisme qui soit reconnu, qui soit impliqué dans la communauté.
Oui.
Il faut que cet organisme contribue au développement de l'action bénévole. Ça veut dire que au sein de ses propres activités, y permettent le développement d'une communauté de bénévoles, que ces bénévoles attestent qui s'y sentent bien, qui s'y sentent valorisés, etc., etc.
Oui, il faut que ce soit un organisme, il faut le préciser, sans but lucratif.
Oui, tout à fait.
Et le prix actualité, c'est quoi ?
En fait, il n'y a pas de... C'est un prix symbolique, je dirais honorifique.
Oui.
Tous les récipiendaires du prix se font remettre le trophée Tara, qui est une statuette. Puis c'est ça, c'est quand même, que ce soit pour un organisme ou pour un ou une bénévole, c'est une reconnaissance, je dirais, de assez haut niveau, puisque ben, le prix vous est remis directement par le ministre en charge du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. En fait, le prix Hommage Bénévolat Québec,
oui.
C'est un projet du secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, ce qu'on appelle le SACE,
oui.
Qui dépend du ministère du Travail. Donc, c'est une distinction qui vient, je dirais, quand même du plus haut niveau de l'État.
Oui.
Donc, c'est à prendre comme un honneur.
Est-ce que depuis l'arrivée de la pandémie, vous avez trouvé une baisse des gens qui ont voulu se porter volontaire pour faire du bénévolat là-bas dans votre organisme Accès Bénévolat, ou bien
il y a absolument plus... pas. Bien au contraire.
Bien au contraire. Ouais, expliquez-nous ça. Oui, mais moi je me suis dit bon, peut-être qu'avec la pandémie, les gens ont peur de voilà, de rencontrer d'autres personnes. Donnez-nous un peu d'infos
non,
sur ça.
Non,
oui.
Je pense à titre personnel, je pense que les gens sont naturellement généreux.
Oui.
La pandémie les a libérés de ce qui les empêche parfois d'être généreux, c'est-à-dire un travail, des études prenantes. Donc beaucoup de gens se sont retrouvés avec du temps libre.
Oui.
Et aussi l'envie de faire leur part. On était tous, surtout au début de la pandémie, scotchés devant nos écrans, à voir les sacrifices que faisaient à la fois les organismes communautaires de première ligne et aussi tous les travailleurs et travailleuses de la santé.
Oui.
Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le même réflexe, c'est-à-dire d'appeler les organismes communautaires locaux ou leur centre d'action bénévole local.
Oui.
Et puis, il ne faut pas le nier aussi, il y a eu un appel qui a eu son importance à la fin mars, je pense le 26 mars, le Premier ministre Legault a fait un appel aux Québécois et aux Québécoises à s'impliquer bénévolement.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu une vague auquel on a eu d'ailleurs de la difficulté à répondre, une vague de personnes qui souhaitaient faire du bénévolat,
oui.
Qui nous ont contactés. En quelques semaines, pour vous donner une idée, en deux semaines, on a reçu pratiquement 1500 candidatures.
Wow.
Ça, c'est ce qu'on reçoit en une année habituellement. Mm-hmm. Voilà.
Ouais. Je dis merci à toutes ces personnes qui... n'ont pas oublié d'ouvrir leur cœur à d'autres personnes. Moi, faire du bénévolat, c'est ouvrir son cœur. Hein. Ça ne fait que donner. Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu, Tristan ?
Question intéressante.
Ouais.
Moi, en fait, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu communautaire. C'est mon milieu de prédilection. Alors, Accès Bénévolat, c'est un organisme, ce qu'on va dire, de seconde ligne. Donc, on rend pas directement des services, même si on propose quelques services, comme un service d'accompagnement transport à des rendez-vous médicaux pour des personnes qui sont en légère perte d'autonomie.
Oui.
Mais mis à part ce service-là, on propose pas directement de service. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'être là pour épauler les organismes de première ligne qui, eux, offrent des services et ont d'ailleurs été, comme le dit son nom, en première ligne de la pandémie, que ce soit pour... que ce soit pour distribuer des paniers repas, pour offrir du répit poussette,
pour faire des appels aussi, tout ça, oui.
Des appels d'amitié, bien sûr. Je parle de pandémie parce que, en fait, les problèmes qu'on rencontrait avant la pandémie, ils ont été exacerbés. Donc, ils existaient déjà, évidemment,
oui.
Que ce soit la faim, la solitude, la santé mentale, les problèmes existaient, mais ils ont été... exacerbés par la pandémie, donc les organismes ont été d'autant plus sollicités. Seulement, tout le monde n'a pas pu trouver chaussure à son pied, tous les bénévoles n'ont pas pu faire du bénévolat, en tout cas tous ceux qui présentaient leur candidature, parce que il y a aussi un grand nombre d'organismes communautaires qui ont dû soit fermer, soit ralentir leurs activités.
Oui, oui, oui. Oui. Alors, pour terminer en beauté, bon, quel est le dernier message concernant cette 24e édition des prix Hommage Bénévolat Québec ?
Eh bien, déposez votre candidature. En fait, n'importe qui peut déposer, un individu ou un organisme peut déposer la candidature de quelqu'un.
Oui.
Moi, je vous invite à aller sur le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale. Il y a un onglet SAQUE. Vous pouvez aussi chercher tout simplement dans Google Prix Hommage Bénévolat Québec.
Oui.
Vous allez être dirigé directement. C'est très facile, on vous présente les formulaires, puis il y a un petit guide de comment présenter une candidature, donc c'est assez simple. Et pour vos candidatures, surtout, n'hésitez pas à aller dans le détail, c'est-à-dire, en fait, il y a quand même beaucoup de concurrence, il y a plusieurs centaines de candidatures qui sont déposées chaque année pour environ 40 lauréats par année.
N'effrayez pas les gens, Tristan.
Non, je ne veux pas les effrayer, ce que je veux dire, c'est n'hésitez pas à aller dans le détail,
oui,
et à présenter les bons coups dans le détail, l'implication,
oui,
et surtout, qu'est-ce que le bénévolat de la personne dont vous déposez la candidature, qu'est-ce que son bénévolat a changé,
oui,
dans la vie de plein de personnes.
Ok. Merci beaucoup, Tristan.
Merci à vous.
Oui, et puis bon, j'espère vous réentendre ici sur les ondes de Canal M, la radio de Vues et Voix. Merci beaucoup pour le beau, grand travail que vous faites à l'intérieur de Accès Bénévolat et puis avec les autres organismes qui collaborent avec vous. Et puis, prenez soin de vous et à bientôt.
Un grand merci. Je vous souhaite une belle fin d'émission et merci de nous avoir donné la parole ce soir.
Merci
bien.
Bonne
soirée.
Au revoir. Bonne soirée.
Chocolate, hey, 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 hey,
batteur Tugenda Komawa. Voilà. Bon, la mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui. Une légende du football du ballon rond, voilà, oui, nous a quitté. Diego Maradona est mort à 60 ans. Elle a signé la presse argentine, bien sûr, pour les amoureux du football. Voilà. Oui. Oui, il faut qu'on le sache, il faut qu'on l'annonce. Et puis, le plus grand joueur argentin de tous les temps. Hein.
Oui, petit en taille, parce que c'était ce que lui avait reproché aussi à un moment. Il pensait de ne pas arriver à jouer au football et puis qui est devenu un joueur exceptionnel.
Oui, il a tellement... Le fait qu'il a marqué un but avec la main... Après, bien avant sa retraite, son histoire de la drogue, la gloire, hein, c'est ça aussi.
Ah
hein.
Bah après, en dehors du terrain,
oui, ses
affaires, c'était moins joli, mais il n'empêche que le footballeur avait
reste,
du talent.
Voilà, moi, c'est ce côté-là qui m'impressionne, sa vie avec cette histoire de drogue, de manger et autres. Bon, ça ne concerne que lui. Que la terre lui soit légère, c'est tout ce qu'on peut dire.
Oui.
Et puis, je dis...
il a marqué son époque.
Il a marqué son époque. Condoléances à toute sa famille, à ses proches, à ses amis. C'est le monde footballistique qui en deuil. Que la télé soit légère et puis mon bain. Voilà. Adieu Maradona. Et
oui.
Bon chemin.
Bon voyage.
Bon vent, comme dirait l'autre. On va en musique.
Allez, avec
Gaël Faye, Petit Pays.
Ah.
Gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays.
Restez avec nous dans cette deuxième partie de l'émission où on va parler avec Sabrina Lemeltier, qui est directrice générale de la Dauphinelle. Donc, comme je vous le disais, la Dauphinelle est une maison d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences et de toutes sortes de violences, malheureusement. C'est une équipe d'employés, de bénévoles qui sont sensibles à la cause des femmes victimes de violences et ou en difficulté, avec des fois des enfants à charge, enfin... C'est assez difficile à vivre, on va en parler avec elle dans un instant. Voilà, donc restez avec nous.
Vous écoutez Regards croisés.
Alors, avant de recevoir Sabrina Lemeltier, donc nous allons partir en musique avec Amadou et Mariam qui nous chantent Femme du monde.
Femme du Mali, la femme
Sabrina Lemeltier, bonjour.
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 On est ravis de vous avoir. Donc, pour parler, vous êtes directrice générale de la Dauphinelle, je vous ai présenté avant, et ce depuis 2006, qui fait déjà un bon moment de toutes ces choses que vous avez vues et entendues, certainement.
14 ans.
Donc, la Dauphinelle donc offre un accueil aux mères qui ont avec enfants qui se retrouvent en difficulté, des femmes victimes de violences et de différentes violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, on va en parler dans un instant.
Tout à fait.
Et là, on va discuter avec vous de la campagne de financement. Je ne sais pas qui a trouvé cette accroche, mais je la trouve formidable. Parce que, trois petits points, elle, c'est nous. Voilà.
Ça a vraiment été issu d'une discussion, d'un brainstorming, excusez-moi pour l'anglicisme, où on s'est dit, mais souvent la violence conjugale, on va la regarder et ça ne nous concerne pas, alors qu'on a tous autour de nous des femmes qui sont victimes de violences, et on a amené ce regard-là pour que la communauté en général puisse aussi se questionner, est-ce que dans mon entourage, il est possible qu'il y ait une victime de violence conjugale ?
Alors en plus, on va rentrer un petit peu plus dans ce que vous faites à la Dauphinelle, c'est-à-dire que vous accueillez, vous recevez, vous essayez du mieux que vous pouvez d'aider ces femmes-là à reprendre figure humaine pour certaines, et puis à se sortir du malheur dans lequel elles sont, ou du cycle de violence dans lequel elles sont. Mais ce n'est pas toujours facile.
Ben, c'est sûr que la violence conjugale, ça s'étale souvent sur plusieurs années. Ça a des conséquences qui sont graves autant pour les femmes que pour leurs enfants. Donc briser le cycle de la violence conjugale, ça prend un mouvement de la femme. Puis après, ça prend un accompagnement, je dirais, psychosocial de qualité pour les accompagner aux différentes étapes. Il y a un deuil amoureux, il y a un deuil de la famille, il y a aussi une personne qui a eu une estime d'elle-même qui a beaucoup baissé. Donc, il faut retravailler sur la reprise de pouvoir, sur la confiance, sur enlever la honte qui pèse malheureusement sur les épaules des victimes alors qu'elle devrait peser sur les épaules des agresseurs.
Bien sûr.
Et puis, c'est pas facile, mais c'est possible, par exemple.
C'est possible, mais il y a des fois où vous avez dû vivre des moments où vous avez dû serrer les dents. J'ai lu une histoire de quelqu'un qui avait accusé sa femme d'aliénation parentale et qui, au niveau de la loi, a gagné le droit de récupérer son enfant, au moins dans sa famille à lui, alors qu'il les battait tous les deux. C'est quand même, ça fait partie des incompréhensions qui existent.
Ouais, ça fait partie des batailles aussi qu'on mène, je vous dirais, parce que oui, c'est une forme de violence systémique, hein,
oui,
envers les femmes victimes de violences conjugales qui sont punies d'avoir dénoncé sous prétexte de maintenir un lien père-enfant de qualité. Donc on nie à la femme, mais on va d'abord souvent reprocher aux femmes de ne pas protéger leurs enfants quand elles restent dans une relation toxique, une relation où il y a de la violence, où les enfants sont exposés à la violence, et puis une fois qu'elles ont quitté, elles deviennent des mères aliénantes. Parce qu'elles ont peur pour elles, mais elles ont peur aussi pour leurs enfants. Donc je vous dirais que ça, actuellement, depuis plusieurs années, c'est notre principal enjeu, c'est-à-dire de faire reconnaître, notamment par la protection de la jeunesse, que la violence conjugale a des conséquences pour les femmes, a des conséquences pour les enfants, et c'est pas parce qu'elles dénoncent ce qu'elles ont vécu ou ce que leurs enfants ont vécu qu'elles sont des mères aliénantes.
Alors ça, c'est tout à fait vrai. J'ai lu là-dessus pas mal, et là j'ai vu la violence économique, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça représente? Et oui, j'ai compris en effet d'avoir un mari qui empêche toute sortie, toute forme de finance. Il gère tellement tout que la femme ne peut plus rien faire.
Oui, j'ai une femme qui me racontait par exemple qu'elle n'était même pas autorisée à aller faire le marché. Elle ne choisissait pas ce qu'elle allait cuisiner et ce qu'elle allait manger au quotidien. Donc on a des femmes aussi qui arrivent, qui n'ont pas de carte, qui n'ont aucune idée
de comment ça marche.
oui, de comment ça marche ou de leurs revenus et qui découvrent, oh mon Dieu, j'ai tel montant, par exemple, d'allocation familiale pour m'occuper de mes enfants. En ayant ce contrôle-là sur l'économie, sur les dépenses familiales, c'est que ça les met dans l'ignorance. Et puis, du coup, bah, elles ont peur de partir parce que pour elles, elles n'ont pas de revenus. Elles sont sans le sou. Comment je vais m'occuper de moi? Comment je vais m'occuper de mes enfants si je n'ai pas d'argent?
Ah oui, c'est absolument incroyable. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que la Dauphinelle, vous êtes accessible en tout temps 24 heures sur 24.
Oui, tout à fait. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année.
C'est incroyable. Donc, on va en reparler dans un instant. Je vais donner le numéro de téléphone, 514-598-7779, 3 fois oui. 7, donc 7779. Et on peut aussi vous écrire à intervention au singulier, @ladauphinelle.org.
Oui, voilà. Tout à fait.
Parce que c'est quand même... Il doit y avoir entre la base de... Il y a combien de personnes qui... travaillent, qui sont embauchés? Il y a combien de bénévoles qui sont là avec vous à peu près?
Alors, on est une douzaine d'employés permanentes, plus bien sûr des personnes sur la liste de rappel. Alors, en temps sans Covid, nous avons plusieurs bénévoles qui viennent nous aider à différents moments de la semaine. C'est sûr que depuis le début de la pandémie, nos bénévoles ont souvent un certain âge, donc et aussi pour protéger la maison et offrir un environnement le plus sécuritaire possible par rapport à la pandémie. Là, nous n'avons pas actuellement de bénévoles dans la maison.
Bien sûr, donc ça se comprend aussi avec ce qui se passe. Et est-ce que d'un autre côté, par contre, le système inverse, alors là, vous avez moins de bénévoles ou plus du tout, et dans le système inverse, la pandémie a fait en sorte que la violence a augmenté dans les foyers?
Je vous dirais que je pense que la violence était là. C'est sûr que le fait d'être en confinement, ça va faire que des situations dégénèrent un peu plus. Il y a une femme qui me racontait, une femme qui est sortie au tout début du confinement, qui nous racontait, en fait, là, il n'y avait plus d'échappatoire parce que monsieur était là en permanence. Il ne sortait plus, il était en télétravail, et elle et ses enfants étaient, eux, obligés de rester dans la chambre à coucher et de ne pas faire de bruit de toute la journée pour permettre à monsieur de travailler dans des bonnes conditions. Donc... Ça, c'était l'enjeu le plus important, que les femmes ne puissent plus nous appeler, ne puissent plus demander de l'aide parce qu'elles étaient confinées avec leur agresseur à la maison.
Alors, on va se faire une petite pause musicale avec une chanson qu'on leur dédie aussi. C'est Camille qui nous chante « Ta douleur » et on se retrouve tout de suite après.
Merci.
Merci.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur, je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur, je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée.
Prendre ta douleur,
je vais prendre ta douleur. La virée de la récré.
Prendre ta douleur,
je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins? Tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal. si tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.
Sabrina Lemeltier, donc on va continuer cette entrevue en parlant donc de cette campagne de financement qui coïncide avec les 12 jours d'action contre les violences qui sont faites aux femmes.
Oui.
Et ça s'échelonne du 25 novembre au 6 décembre. Alors je vous laisse nous en parler.
Alors c'est une campagne justement où on a voulu démontrer que la violence conjugale nous entoure et qu'il faut porter un regard que sans le savoir on connaît tous une victime de violence, qu'elle peut être notre amie, notre voisine, notre collègue, notre mère peut-être. Donc durant les 12 jours, ce qu'on invite, la communauté, la population, à venir nous soutenir. Alors c'est 12 jours, $12 sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram, il y a une
chaîne de Dauphinelle, en un seul mot.
Oui, exactement. Il y a une chaîne de solidarité. Les 12 jours aussi, on fait aussi de la formation et de la sensibilisation. Et on a demandé à 12 personnalités de lire des extraits de témoignages de femmes qui ont participé à un recueil qui s'appelle « Oser réécrire sa vie ». Et donc, ça s'alterne comme ça chaque journée, la lecture d'un témoignage fait par une personnalité. Et on invite les gens à venir nous soutenir grâce à un petit don, mais qui va faire une énorme différence.
Mais oui, bien sûr, parce que multiplié par tous ceux qui le feront, j'espère que ça va faire assez d'argent pour aider, parce qu'il y a toujours besoin d'aide, surtout maintenant que vous ne pouvez pas avoir de bénévoles et que vous êtes tout seul à vous occuper de cet endroit-là.
Donc, pas de bénévoles, mais aussi l'impossibilité de tenir des événements bénéfices. Oui. Savoir que nous, on va chercher à peu près 30% de notre financement grâce à l'aide de la communauté.
D'accord, ben, c'est très bien. Déjà 30%, enfin, faudrait que ça soit plus remarqué.
Mais
c'est déjà 30%, c'est déjà très bien. Donc parmi les personnalités, il y a Guylaine Tremblay, Bruno Pelletier, Eve Landry, Emmanuel Tadros et d'autres. Donc oui. Oser réécrire sa vie, qui a été publié au printemps dernier, sauf que c'est passé à un moment...
On l'a lancé la veille de l'annonce du confinement.
Ah, d'accord.
Donc, ça a été assez extraordinaire comme moment. Sûrement l'un des derniers événements qui s'est tenu à Montréal. Mais on n'était pas conscient qu'on était à la veille d'un confinement.
Mais oui. Donc, on reparlera de cet ouvrage. On vous réinvitera. Enfin, en tout cas, je vous réinviterai pour en parler après l'avoir lu. Donc, ce sont des femmes qui racontent dans leurs mots à elles. Comment elles ont réussi à se sortir d'une relation de violence conjugale.
Voilà. Oui, tout à fait. Alors, et ça illustre les différentes formes de la violence, justement.
Oui, parce qu'on en apprend, parce qu'on pense... Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais celle qui me fait le plus peur, c'est la violence psychologique. Parce que c'est celle qu'on ne peut pas voir avec des bleus sur le visage, et c'est celle qui peut terroriser... Et rendre esclave, ça me fait très peur, cette violence-là.
Il y a une femme qui m'avait dit, il m'aurait mis un coup de poing dans la gueule, ça aurait été plus simple que la violence psychologique.
Ah oui, mais je la crois.
Parce que c'est celle qui se prouve très difficilement.
Voilà. On peut pas le dire, surtout quand le mari est un homme reconnu dehors comme un homme tellement gentil et tellement sympathique. C'est ce qui arrive aussi. Bref.
Oui.
Donc, je lisais qu'au Canada, une femme est tuée tous les 6 jours par son conjoint.
Oui, au Québec, c'est une femme par mois qui meurt dans un contexte d'homicide conjugal.
Oh là 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 là, 19 000 infractions sont commises chaque année. Et j'ai lu aussi dans le communiqué, donc en fait, les femmes qui viennent vous voir. Il y a toujours autant de violences au Québec, hein, entendons-nous. Mais maintenant, en vue des personnes de toute nationalité qui sont venues, vous avez presque 70% des femmes que vous recevez qui ne sont pas nées au Canada,
oui,
qui viennent d'Afrique, des Caraïbes, du Maghreb. Donc il faut aussi pour vous vous adapter à un langage que vous n'aviez peut-être pas appris avant pour pouvoir communiquer si certaines ne parlent pas l'anglais ou le français.
Oui, on travaille vraiment avec une banque d'interprètes dans ces situations-là. Puis je vous dirais aussi que la francisation se met en place très rapidement. Donc on a quand même développé des stratégies pour pouvoir accompagner tout le monde, quelle que soit la langue, quelle que soit ses origines. Et tout le monde a le droit d'être protégé. Et la langue ne doit pas être un frein à l'accès aux services en violence conjugale.
Ah, tout à fait. Vraiment. Donc, il faut dire aussi que les fonds recueillis serviront à soutenir la mission de la Dauphinelle et à permettre aussi à l'organisme de financer des projets tels que Contact L. Le mot contact, trait d'union, L au pluriel. C'est un nouveau service d'accompagnement.
Oui, qu'on a spécifiquement mis en place dans le cadre de la pandémie, parce que comme le téléphone arrêtait de sonner, ben on a tout de suite fait ce lien confinement, séquestration. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit rejoignable, qu'on donne une écoute de qualité, mais qu'on offre aussi la possibilité de nous texter. Texter, c'est plus discret, ou nous écrire un courriel. Donc c'est pour ça qu'on a créé Contactel.
Et est-ce que ça a bien fonctionné?
Oui, ça fonctionne bien.
Est-ce que ça fonctionne bien encore, puisqu'on est encore dans des...
Oui, ça fonctionne bien. Les femmes et l'entourage, hein, je peux le dire aussi, si des gens qui sont à l'écoute disent « Oh mon Dieu, je pense à telle personne ». Donc, on offre aussi de l'écoute à l'entourage. Donc, oui, on reçoit vraiment des appels. On reçoit des appels à l'aide. On reçoit aussi des appels pour mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, ça fait partie aussi du processus pour les femmes avant de décider de partir.
Ben oui, parce que celles qui sont... terrorisés, on va même dire tétanisés, ont peut-être du mal. Ce qui nous paraît facile à nous quand on n'a pas, quand on vit pas dans ce problème-là, peut paraître absolument, comment dirais-je, impossible de bouger pour une femme qui le vit. C'est ça.
Hein, oui, tout aussi. À fait. Puis doublement avec la pandémie, parce qu'il y a aussi une peur là de l'extérieur. Est-ce que je vais me retrouver dans un endroit qui va être sécuritaire? Je vais pas attraper la maladie? Je vais être offrir un environnement qui va être adéquat pour mes enfants? Donc on vient complexifier la décision. Et puis souvent, je dis aux gens, on a tous mis fin à une relation amoureuse et puis on sait comme c'est difficile. C'est 10 fois, 100 fois plus difficile pour une victime de violence conjugale.
Ah ben c'est, oui, j'en doute pas. C'est dramatique, il y en a toujours autant. Je ne sais pas si vous en avez souvenir, mais moi je me souviens vous avoir reçu il y a plus d'un an, hein, ou deux, et on en parlait déjà, et rien ne va mieux. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à aller un petit peu mieux?
Je pense que le fait qu'on en parle beaucoup plus, qu'on l'aborde, je pense aussi le fait qu'on utilise les bons mots, qu'on arrête de dire par exemple un drame familial quand il y a eu un homicide en contexte conjugal. Je sens quand même une sensibilité qui est importante. C'est sûr qu'il faut que le système de justice soit plus, adapté aux victimes de violences conjugales. Il faut qu'il y ait plus de services, autant en hébergement qu'en accompagnement, ce que nous, on va dire, dans la communauté externe. Je crois qu'il faut continuer de promouvoir des rapports égalitaires hommes-femmes au maximum, de pas laisser passer ces petites choses. Quand on voit qu'il y a quelque chose chez mes amis, il y a l'air d'y avoir... un comportement ou quelque chose qui est inadéquat, de réagir, d'offrir notre aide aux femmes. Et puis, il n'y a que comme ça que les choses vont changer.
Eh bien, écoutez, Sabrina, on arrive à la fin de cette entrevue. Pour faire un don, donc visitez www.ladauphinel.org ou le Facebook de La Dauphinelle. C'est simple, vous donnez un 12$, puis vous essayez de trouver autour de vous 12 personnes qui peuvent donner aussi leurs 12$, et ça fera la chaîne pour briser cette violence. Donc merci beaucoup à vous de nous en avoir parlé encore une fois. Et puis on souhaite que quelque part un jour, ça n'existe plus.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
La petite vingtaine et le gros tarieux vivaient ensemble, toutes les deux. Le gros tarieux avait pas de job, la petite vingtaine releva sa robe. La petite vingtaine retourna chez eux porter l'argent au gros tarieux. Le gros tarieux la dépensait en couraillant les cabarets. Yeah. Mais il garda toujours quelques cents pour le transport de la petite vingtaine. La petite vingtaine demanda pas mieux que d'voir heureux son gros tarieux. Mais elle était pas mal tannée de manger des volets pour souper. Fait qu'un soir pour changer la rime, elle a fait une crise à son gros bim. Le gros tarieux pas achalé, il a calissé un autre volet. La petite vingtaine en bourgeois le vert a empoigné une barre de fer. Puis dans un réflexe passionnel, elle l'a batté entre les deux snelles. Le gros tarieux plié en deux fonçait en se protégeant de son mieux pour agripper la petite vingtaine, mais tomba en bas du deuxième. La petite vingtaine au désespoir garda le cadavre sur le trottoir. Désemparée, elle prit de la drogue et se garocha sous le troc de la morgue. Ce qui veut dire que faudra pas prendre les petites vingtaines. Pour des lanternes.
Alors on termine cette entrevue avec la chanson de Plume la Traverse. Voilà, la petite vingtaine, puis le gros torio.
Donc, à la fin de l'émission, on disait.
On arrive tout doucement aux dernières minutes de l'émission, il y a toute dernière. Donc, je tiens encore à remercier Sabrina Lemeltier. C'est des choses qu'il faut savoir. Malheureusement, elles continuent à exister pour l'instant.
Moi, j'ai dit merci à Tristan Lamour, responsable des communications avec ses bénévoles et un des porte-parole locaux de la campagne annuelle Prix Hommage à Bénévolat Québec.
Quel beau nom de s'appeler Lamour.
Tristan Lamour.
Merci Maurice Bolduc pour la musique.
Merci à nos auditeurs aussi qui nous ont écoutés.
Merci à vous toutes et vous tous.
Merci à toi.
Et puis, merci à toi aussi. Ouais. À demain. Et puis, faites attention. Faites attention à tout le monde. Prenez soin les uns des autres. Au revoir.
Prenez soin de vos minutes.
À demain.